pour avoir confiance en Dieu, il faut que je sois convaincue de son amour, convaincue de sa puissance, convaincue de sa justice, convaincue de sa vérité. Dit comme ça, ça a l'air simple, mais c'est pas si simple. Comment qualifieriez-vous votre foi? Jésus a dit un jour, en parlant d'un responsable militaire romain, que sa foi était grande. Un Romain. Sa foi est grande. Il était aussi émerveillé, Jésus, par la foi des amis du paralytique. Alors, que dirait Jésus de votre foi? Que dirait Jésus de ma foi? Pour dire les choses autrement, jusqu'où pensez-vous que Dieu peut aller? Jusqu'où pensez-vous que Dieu peut aller pour chacun de vous, pour votre Église, par amour? Alors, je vais vous inviter à lire un passage de l'Évangile de Marc qui se trouve au chapitre 11. C'est la version du semeur qui va s'afficher. Je vais un tout petit peu l'introduire avant. Jésus entre à Jérusalem, on est à la fin de son ministère. Hein. Il entre à Jérusalem, il est acclamé et attendu avec joie comme le libérateur. À ce moment-là, il va se rendre au temple et le texte nous dit qu'il se rend au temple pour observer, ce qui est pas souvent ce qu'on attend de Jésus. On s'attend à ce qu'il enseigne, mais là, il est venu pour observer. Qu'est-ce qu'observe Jésus? Eh bien, je crois qu'il observe comment toutes ces personnes qui l'acclamaient se comportent réellement dans leur culte personnel, j'allais dire, dans leur relation à Dieu. Il observe la profondeur de leur foi, peut-être. Mais le texte s'arrête là, on ne sait juste ça, Dieu, Jésus est venu et il observe. On n'en sait pas plus et le texte nous dit que Jésus repart, quitte Jérusalem et repart de nouveau passer la nuit à Béthanie, j'imagine peut-être chez ses amis, Lazare et ses sœurs. Et le voilà le lendemain qui reprend la route pour Jérusalem. Et c'est ici que nous avons ce passage pour le moins surprenant, désolé pour ma voix. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit « Que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. » Et ses disciples l'entendirent. Essayez d'imaginer la scène, c'est quand même un petit peu particulier, non? Vous êtes sur la route avec Jésus et il s'arrête vers un arbre, il voit pas de figue alors que c'est pas la saison. Et Jésus s'énerve, on a l'impression, après cet arbre, il lui dit que plus jamais personne ne mange de ce fruit. Tout le monde l'entend. Je sais pas comment vous aurez réagi. Moi, je pense que j'aurais dit, c'est quand même particulier. Enfin, tout le monde l'entend. Parole surprenante. Merci beaucoup. Et puis Jésus et ses disciples poursuivent leur route et ils retournent au temple. Et cette fois-ci, non pas pour observer, mais pour mettre de l'ordre. Parce que Jésus a été probablement indigné, en tout cas attristé, profondément déçu par ce qu'il a vu, parce qu'il a vu des marchands de foi. Des marchands de foi qui pervertissent la réalité de la relation à Dieu. Alors il s'applique à purifier ce temple qui n'honore pas Dieu. Et puis il repart à Béthanie. On voit tous ces allers-retours. Il repart à Béthanie pour la nuit. Et les voilà de nouveau de retour pour Jérusalem le jour d'après. Et les voilà qui passent à nouveau devant le figuier. Et là, suite du texte, le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Mais maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. » Jésus répondit, ayez foi. Ayez foi en Dieu, pas en moi, hein, pas en vous. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un texte particulièrement questionnant. Et il m'a beaucoup interpellée, et il m'a beaucoup interpellée par rapport à un petit détail dont je n'avais jamais vraiment fait attention, c'est la réaction de Pierre. Et c'est le dialogue qui va suivre, qui va s'installer entre lui et Jésus. Regarde, Seigneur, le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. On dirait qu'on a là un disciple, ça fait 3 ans qu'il est avec lui, hein, tout surpris de découvrir que ce que Dieu dit se réalise. Il était temps peut-être. Ne lui jetons pas la pierre, aucun autre disciple n'a peut-être fait attention à ce figuier qui était sec. Hein. Il l'a bien dit, tous l'entendent dire. On a que la réaction de Pierre là. Psaume 33, 9, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. On dirait que Pierre réalise tout à coup que la parole de Jésus, fils de Dieu, est vraie. Et pourtant, Pierre, c'est le plus impétueux des disciples, celui qui est prêt à donner sa vie pour sauver la sienne, celui qui a affirmé à Jésus « tu es le Messie ». Ce même Pierre avait vu des miracles, des guérisons, même dans sa propre famille, sa belle-mère. Et le voilà apparemment surpris, en tout cas étonné, que cet arbre maudit par Jésus soit sec. Pourtant, Jésus avait dit « je suis le chemin, la vérité, la vie, la vérité ». Vous savez quoi ? Ce texte m'a repris, parce que nous qui sommes des disciples de Jésus, eh bien, il nous arrive aussi de surfer sur des vérités sans se rendre compte de ce qu'elles impliquent vraiment. Sans se rendre compte de la profondeur, ouais, vraiment de la profondeur de qui est Jésus-Christ. Quand Dieu dit quelque chose, cela a des répercussions concrètes pour nos vies. Il n'y a pas d'écart entre la parole de Dieu et son action. Mes amis, il n'y a pas d'écart entre sa parole et son action pour nous. Et de cela, nous n'avons pas à douter. Alors voilà maintenant cette réponse de Jésus, elle me devient évidente quand Pierre lui dit « Mais regarde ce figuier, il est sec, il va répondre, mais ayez foi. » C'est-à-dire, fais-moi confiance. Faites-moi confiance quand je dis quelque chose, ça se réalise. Jésus va se mettre à expliquer à Pierre comment lui, fils de Dieu, définit la foi. Pas ce qu'il a vu au temple, mais ce que lui comprend. Et voici la première chose qu'il dit, la foi en Dieu, Jésus-Christ, est une foi, je ne sais pas si vous avez vu cette caractéristique de cette foi dans ce passage, c'est une foi qui déplace des montagnes. C'est une image qu'il avait déjà utilisée avec ses disciples qui n'avaient pas réussi à guérir un enfant qui était possédé et épileptique. C'est dans Matthieu 17 qu'on trouve ça. Les disciples vont dire à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser les démons ? Réponse de Jésus, parce que vous avez que peu de foi. Ça clash, hein ? Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. La foi en Dieu touche à l'impossible. Une foi qui déplace les montagnes. Par cette expression, Dieu est en train de nous faire comprendre que la foi touche à l'impossible. Je veux dire l'impossible pour l'homme. Hein. Ce que l'homme ne peut pas faire et ne fera jamais. La foi touche au miraculeux. Et on a entendu des tellement belles choses ce matin encore. La foi touche au miraculeux, elle parle de guérison spirituelle, émotionnelle, relationnelle, physique. La foi telle que Dieu l'a prévue, cette relation, cette confiance en lui, telle qu'il l'a prévue, c'est que nous ayons confiance en un Dieu de l'impossible. Que nous ayons confiance en un Dieu qui permet le miraculeux dans nos vies. Et on va définir le miraculeux tout à l'heure. Rien ne vous serait impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Ce sont des versets qu'on connaît très bien. Il y a des versets qu'on connaît par cœur, mais qui nous questionnent. Parce que nous connaissons tous des gens qui n'ont pas été guéris. Parce que nous connaissons tous des gens qui, malgré nos prières sincères, sont toujours dans des situations relationnelles bloquées, restent blessés jusqu'à la rupture. Nous connaissons tous des décès bien trop tôt. Nous avons tous des prières qui n'ont pas eu la réponse souhaitée. Mes amis, l'impossible ne signifie pas tout ce que je désire maintenant. Dieu reste souverain de la réponse qu'il donne. Peut-être parce qu'on a des choses à apprendre avant, peut-être parce qu'on demande avec des mauvais motifs, ça c'est Jacques qui nous dit ça. Peut-être aussi simplement parce que Dieu a en vue quelque chose de meilleur, ça c'est Hébreux qui nous le dit, c'est Paul. Même si pour nous, c'est pas ça le meilleur. Et qu'on voit pas le meilleur à ce moment-là. L'impossible, eh bien, il est parfois donné plus tard. Parce que Dieu permet l'épreuve pour apprendre la persévérance. C'est Romain qui nous le dit. Parce que Dieu attend un lâcher prise. Ayez foi. Un pardon à accorder. Ça, c'est le verset 25 et suivant du passage que je vous ai lu. Une soumission à sa volonté, quelle qu'elle soit, un changement d'attitude, un abandon d'un péché. En un mot, la sanctification. Et ce n'est pas sans larmes. Et parfois, l'impossible, ce n'est pas à quoi on s'attendait. Dieu nous fait découvrir d'autres facettes de lui. Le Dieu de la paix dans l'épreuve. C'est peut-être ça, non? L'impossible et le miraculeux. Jusqu'où pensez-vous que Dieu peut aller? Jusqu'où notre confiance en Dieu pour nos vies? Jusqu'où va-t-elle? Jusqu'où croit-on vraiment que Dieu peut déplacer nos montagnes si on lui demande? Nous qui sommes limités, nous ne comprenons pas l'amour illimité de Dieu. La notion d'illimité, on ne peut pas la comprendre puisqu'on est limité. On ne peut pas comprendre sa hauteur, sa profondeur, sa grandeur. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas la comprendre qu'elle n'existe pas. Tout comme son amour, parfois, nous avons du mal à comprendre l'immensité de sa puissance. Et nous la limitons. Or, par la foi, nous sommes appelés à en être convaincus. La foi parle d'impossible. C'était ma première idée que je voulais partager avec vous. Et la deuxième qui va avec, c'est la foi s'oppose au doute. On a parlé de doute ce matin. La foi s'oppose au doute dans le sens où la foi est une conviction profonde. Mais le doute fait partie de l'homme. Et je crois que la doute est quelque part un chemin de foi, parce que notre foi est appelée à se développer. Ça aussi, c'est un verset que vous connaissez. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère ou des choses qu'on ne voit pas. Donc avoir la foi, c'est ne pas douter de la nature de Dieu, de son amour, de sa toute-puissance. Alors oui, c'est facile à dire. Et après, il y a le concret. Alors j'ai pensé à trois personnes. J'ai pensé à Thomas. Thomas le raisonnable. Thomas qui a douté. Douté de quoi? Douté de la résurrection. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Probablement que cette notion de résurrection était trop miraculeuse pour cet homme. Un homme cartésien qui ne croit que ce qu'il voit. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Il y a des gens parmi nous qui sont plus cartésiens que d'autres, qui ont besoin de voir les choses et de les comprendre. Thomas ne comprend pas, alors il doute. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi a douté. Il a mis en doute la nature réelle de Jésus. « Es-tu vraiment celui qui doit venir ?»« Vraiment, dis-le-moi quoi, parce que moi je suis au fond de ma prison. » Jean-Baptiste probablement trop découragé, trop déçu, trop en souffrance au fond de sa prison. Et peut-être que vous êtes au fond d'une prison. Tellement au fond d'une prison que vous n'arrivez plus à vous dire « Est-ce que vraiment tu es celui que tu dis que tu es ?» Ça aussi c'est un doute. Et c'est un doute que Dieu accepte et vous allez voir que Dieu va répondre. Et puis il y a Sarah, trop âgée, c'est-à-dire c'est trop tard. Est-ce que parmi vous il y a des gens qui disent c'est trop tard? Dieu est bon mais c'est trop tard pour moi. Sarah, elle a douté de la puissance de Dieu face à sa stérilité. Peut-être qu'elle a douté même de ce que Dieu ait un regard favorable sur elle, pourquoi moi? Les autres peut-être, ouais, mais moi, surtout une femme à cette époque. Alors avec Abraham, souvenez-vous, elle avait trouvé un plan B, au cas où. Sa servante comme mère porteuse. Ça faisait trop longtemps qu'elle attendait Elle était trop vieille. Est-ce que vous doutez de la puissance illimitée de Dieu parce que votre cerveau vous fait douter, parce que vous ne comprenez pas en fait, parce que vous souffrez au fond d'une prison, parce que vous êtes trop déçu de ne pas recevoir ce que vous auriez tant espéré depuis tellement de temps. Souvenez-vous, il y a un homme qui est au bord d'une piscine aussi, à Bethesda. Ça fait 38 ans qu'il est au bord de cette piscine. Et Jésus va lui dire une question complètement ahurissante pour moi. Est-ce que tu veux être guéri? Ben, franchement, oui. Eh bien, franchement, non. Parce qu'il n'espérait plus rien. Oui, dans ces moments-là, il est humain, profondément humain, de penser, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu est-il réellement puissant, même pour ma situation? Mais Dieu reste le Dieu de l'impossible. Thomas a douté et Jésus va venir vers lui, jusqu'à lui, lui montrer ses mains, lui donner des preuves tangibles et il va lui dire « Ne sois pas incrédule, mais crois. Aie foi en moi, je suis la résurrection, le chemin et la vie. » Jean-Baptiste a douté. Alors Jésus lui fait transmettre ce message. Les aveugles voient, Jean-Baptiste. Les paralysés marchent normalement. Les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Aie foi en moi. Dieu ne l'a pas sorti de sa prison, hein, puisqu'il va être décapité. Mais je crois que Dieu l'a sorti de son doute. Qu'il lui a rendu la foi pour lui permettre de se tenir accroché à cette vérité-là. Jusqu'à la mort. Et là aussi, c'est du miracle. Sarah est tombée enceinte, miraculeusement, à un âge où on ne tombe plus enceinte. Un miracle, malgré le doute. Ne jugeons pas, ne nous jugeons pas lorsque nous doutons, mais gardons les yeux sur ce Dieu de l'impossible. Il y a ce verset dans Genèse 18 de Dieu, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Et le mot qui est utilisé là, c'est le mot, pourquoi Sarah a-t-elle douté? Quand j'ai annoncé qu'elle serait enceinte, pourquoi a-t-elle douté? Y a-t-il quelque chose de trop extraordinaire pour l'Éternel? Je crois vraiment que Dieu aimerait qu'on puisse lui faire confiance. Quand je dis confiance, vraiment confiance, au point d'arrêter nos plans B. Au cas où. Trois doutes, il y en a d'autres, hein, probablement, bien sûr. Et en même temps, trois réponses différentes, pas toujours celles attendues. Je ne sais pas si, bien sûr que Jean-Baptiste aurait aimé sortir de cette prison. Mais réponse de Dieu quand même, et présence de Dieu quand même, miracle autre. Trois réponses différentes, mais toujours une réponse qui prouve la puissance de Dieu. Et une puissance qui va avec l'amour. Pas une puissance destructrice, une puissance qui aime. Alors, quelles que soient les raisons, même légitimes, même humaines, ne doutons pas de sa puissance agissante dans nos vies. L'action de Dieu n'est pas un coup de chance hasardeux, ce n'est pas un coup de poker. Les montagnes bougent parce que Dieu est assez puissant pour les bouger. Ce n'est pas nous qui déplaçons les montagnes, c'est lui. Par contre, c'est nous qui demandons, avec foi, que Dieu les déplace. Dans le grec, ce verset est un passif, c'est-à-dire qu'il est en réalité écrit « montagne soit soulevée, soit jetée ». Je pense toujours à ce petit garçon qui a donné ses 5 pains et 2 poissons, je ne sais jamais le chiffre, hein, 3 pains et 2, 5. C'est le seul qui a donné, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui avaient des pains dans les poches, quoi. Il n'y a que lui qui a donné et qui a vu la multiplication. Dieu ne multiplie que ce qu'on lui donne. Et je crois que Dieu attend de nous, que nous ayons cette part de oser demander et oser donner. Alors oui, Dieu agit au-delà de ce que nous pensons et demandons, et fort heureusement. Dieu peut répondre même quand on lui demande rien, c'est Éphésiens 3, 20, hein, vous le connaissez, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, puissance, au-delà de ce que nous demandons. Dieu agit au-delà de ce que nous demandons, mais il veut qu'on lui demande des choses. Relisez tous les miracles de Jésus, vous verrez le nombre de fois où il dit « Que veux-tu que je fasse ? Qu'attends-tu de moi ? Est-ce que tu veux être guéri ?» Alors, je vous repose cette question que je vous ai posée au début. Jusqu'où penses-tu que Dieu peut aller pour toi ? Jusqu'où pensez-vous que Dieu peut aller pour votre Église ? Pour vos familles ? Pour votre santé ? Qu'osez-vous demander à Dieu ? Avec foi, pas pour exiger. Prier, c'est pas mettre Dieu à son service, hein. C'est pas une manipulation. Dieu agit par grâce, pas parce qu'on lui force la main. La foi, c'est pas une technique magique pour faire disparaître tout ce qui nous dérange. Aujourd'hui, tout le monde recherche du magique. Tout le monde veut une solution rapide, radicale, sans faire d'effort. Ça s'appelle le magique. Dieu offre du miraculeux, c'est pas du tout pareil. La prière, c'est un effort de notre part. La prière persévérante, c'est un réel effort de notre part, parce que des fois, on arrête de prier parce qu'on est découragé. On n'est pas dans hop, une petite prière et un coup de baguette magique et Dieu va faire déplacer la montagne. La prière, c'est pas un distributeur de boissons. En priant, vous n'allez pas acquérir une technique magique. Vous allez acquérir une confiance de plus en plus solide en ce Dieu tout-puissant. Ça demande du temps. Du temps passé en la présence de Dieu pour mieux discerner sa volonté. Tout ce que vous demandez en mon nom. Ça demande du temps, mes amis, pour discerner la volonté de Dieu et avoir des demandes conformes à sa volonté. Ça demande du temps pour refuser les mensonges de l'ennemi qui vous fait douter de sa toute-puissance. Depuis le temps que tu es là, Dieu s'occupe pas de tout. Dieu ne peut plus rien faire. La foi qui déplace des montagnes. Je crois qu'elle est le reflet de ma capacité à entrer dans cette volonté de Dieu pour ma vie et de lui demander d'agir puissamment dans ma vie. Est-ce qu'on ose lui demander ça ? On a tellement peur de le manipuler, tellement peur de lui... Je crois qu'on a tellement peur parce que nos fois sont sincères. On n'a pas envie de le manipuler, de lui dire « vas-y, fais ça pour moi ». Mais on est tellement peur de ça qu'on n'ose plus parfois lui demander quoi que ce soit. On lui dit « sois souverain ». Je crois que Dieu nous demande d'oser lui demander des choses. Alors oui, les disciples se sont sentis bien petits hein, devant tout ce que Jésus essayait de leur apprendre, parce qu'après ils vont dire « Seigneur, et ça c'est ma prière aussi, Seigneur augmente notre foi ». Comme ce grain de moutarde tellement petit qui va donner un arbre tellement grand, « Seigneur augmente ma foi ». Ça s'exerce, c'est un muscle. Quand on fait du sport, on s'aperçoit qu'on a des nouveaux muscles le lendemain. La foi c'est un peu ça quoi, il faut qu'on la travaille. Mes amis, si vous n'avez pas encore reçu de réponse à ce que vous demandez, eh bien, je prie que Dieu vous fasse la grâce de continuer d'y croire avec force. En attendant, peut-être de vous réjouir pour ceux à qui il répond. Ça, c'est pas facile non plus. Mais ayez foi en Dieu. Sa parole est agissante. Il dit et la chose existe. On va chanter ensemble ce chant « Manifeste ta présence, convainc-nous de ta puissance ». Et je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre pour ça. Vraiment, que vous puissiez expérimenter cette foi qui déplace les montagnes. Chacun de vous, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, que le Seigneur nous convainc de sa puissance. Il est le Dieu de l'impossible. Amen.